Rachel. Vendredi 12 juillet 2013. Matin. Je suis épuisée. La tête encore assoupie, engourdie. Quand je bois, je ne dors presque pas. Je finis par m'effondrer une heure ou deux avant de me réveiller, malade de peur et dégoûtée de moi-même. Et si je passe un jour sans boire, la nuit qui suit, je m'endors profondément, comme si je perdais complètement connaissance. Le lendemain, je n'arrive pas à bien sortir du sommeil. Il m'accompagne durant des heures, parfois toute la journée. Il n'y a qu'une poignée de gens dans la voiture D ce matin, et les sièges près de moi sont vides. Personne ne m'observe, alors j'appuie la tête contre la vitre et je ferme les yeux. Le crissement des freins me réveille. On est arrêté au feu. À cette heure-là, le matin, à cette époque de l'année, les maisons au bord des rails sont envahies de lumière. Je peux presque sentir la chaleur de ce soleil matinal sur mon visage et sur mes bras, assise à la table du petit déjeuner, Tom en face de moi, mes pieds nus posés sur les siens, plus chauds, et les yeux baissés sur le journal. Je le sens me sourire et une rougeur s'étend de ma poitrine à mon cou, comme toujours quand il me regardait ainsi. Je cligne soudain des yeux et Tom a disparu. Nous sommes toujours arrêtés. Je vois Jess dans son jardin et derrière elle, un homme sort de la maison. Il a quelque chose dans les mains, une tasse de café peut-être, et au bout d'un moment, je me rends compte que ce n'est pas Jason. Cet homme est plus grand, plus mince, plus foncé aussi. C'est un ami de la famille. C'est son frère à elle, ou celui de Jason. Il se penche pour poser les tasses sur la table en métal de la terrasse. C'est un cousin australien qui passe 2 semaines chez eux. C'est un vieil ami de Jason, témoin à leur mariage. Jess se dirige vers lui, l'enlace par la taille et l'embrasse langoureusement. Le train repart. Je n'arrive pas à y croire. Je prends une grande inspiration et je m'aperçois que je retenais mon souffle. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Jason l'aime, ça se voit, ils sont heureux. Je n'en reviens pas qu'elle puisse lui faire ça. Il ne le mérite pas. Je ressens une cruelle déception, comme si c'était moi qu'on avait trahi. Une douleur familière ressurgit dans ma poitrine. J'ai déjà ressenti ça auparavant, en plus fort, en plus intense, bien sûr. Mais je n'ai pas oublié cette souffrance. C'est impossible à oublier. Je l'ai découvert comme tout le monde semble découvrir ce genre de choses de nos jours, par voie électronique. Parfois, c'est un texto ou un message vocal. Dans mon cas, c'était un email. La version moderne du rouge à lèvres sur un col de chemise. C'était un accident, en plus. Je n'étais pas en train de l'espionner. Je n'étais pas censée utiliser l'ordinateur de Tom parce qu'il avait peur que j'efface quelque chose d'important par mégarde ou que je clique sur le mauvais truc et que je fasse entrer un virus ou un cheval de Troie. « La technologie, c'est pas ton fort, hein, Rachel » m'a-t-il dit la fois où j'ai réussi à effacer tous les contacts du répertoire de sa boîte mail par erreur. Du coup, je n'étais pas supposée toucher à l'ordinateur. Mais c'était pour lui faire plaisir. Je voulais me faire pardonner d'avoir été un peu trop déprimée et difficile à vivre depuis quelque temps. Alors, j'essayais d'organiser une escapade spéciale pour notre 4e anniversaire de mariage. Un voyage pour nous rappeler comment c'était entre nous. Avant. Je voulais que ce soit une surprise. Alors il fallait que je jette un coup d'œil à son emploi du temps professionnel en cachette. Il le fallait. Je n'étais pas en train de l'espionner. Ni de le piéger ou quoi que ce soit. Ce n'était pas mon genre. Je ne voulais pas être une de ces femmes soupçonneuses qui fouillent les poches de leur mari. Une fois, j'avais répondu à son téléphone pendant qu'il était sous la douche, et il s'était vraiment fâché. Il m'avait accusé de ne pas lui faire confiance. J'avais beaucoup culpabilisé ce jour-là. Il avait l'air tellement blessé. J'avais donc besoin de vérifier son emploi du temps. Et il avait laissé l'ordinateur portable allumé parce qu'il était en retard à une réunion. C'était une opportunité en or. Alors je suis allée regarder son agenda. J'ai noté quelques dates possibles, puis j'ai refermé la fenêtre du calendrier et en dessous, sa boîte mail était ouverte, juste sous mes yeux. Tout en haut de la liste, il y avait un message de aboyd@cinnamon.com. J'ai cliqué. XXXXX. Rien d'autre, juste une ligne de X. D'abord, j'ai cru que c'était un spam. Puis, j'ai compris que c'était des baisers. C'était une réponse à un message qu'il avait envoyé quelques heures auparavant, peu après 7 heures du matin, alors que j'étais encore endormie dans notre lit. Cette nuit, je me suis endormie en pensant à toi. J'ai rêvé que je t'embrassais la bouche, les seins, l'intérieur des cuisses. Quand je me suis réveillée ce matin, ma tête débordait de toi et je n'avais qu'une envie, te toucher. Ne compte plus me trouver sain d'esprit. Ce n'est plus possible depuis que tu es dans ma vie. J'ai lu ces messages. Il y en avait des dizaines, cachés dans un dossier intitulé « Admin ». J'ai découvert qu'elle s'appelait Anna Boyd et que mon mari était amoureux d'elle. Il le lui disait souvent. Il lui disait qu'il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, qu'il avait hâte d'être avec elle, qu'elle n'aurait plus à attendre longtemps avant qu'ils puissent être ensemble. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti ce jour-là. Mais à cet instant, dans le train, je suis furieuse. J'ai les ongles enfoncés dans les paumes et les larmes me piquent les yeux. Une colère intense m'envahit. J'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. Comment a-t-elle pu? Comment Jess peut-elle faire cela? C'est quoi son problème? Quand on voit la vie qu'elle a, comme elle est belle cette vie. Je n'ai jamais compris ceux qui peuvent écarter sans le moindre remords le mal qu'ils font autour d'eux en suivant leur cœur. Qui a dit qu'il était bon de suivre son cœur? C'est de l'égoïsme pur, un besoin égocentrique de les avoir tous à ses pieds. La haine monte en moi. Si je voyais cette femme en ce moment même, si j'avais Jess en face de moi, je lui cracherais au visage. Je lui arracherais les yeux. Soir. Il y a un problème sur ma ligne. Le direct de 17h56 à destination de Stoke a été annulé. Alors ces passagers ont investi mon train. Il n'y a plus que quelques places debout. Heureusement, j'ai un siège, mais c'est côté couloir et non côté vitre. Et des corps appuient contre mon épaule, mon genou, envahissent mon espace. Je réprime l'envie de les repousser, de me lever et de leur mettre un bon coup. La chaleur n'a cessé d'augmenter toute la journée. J'ai l'impression de respirer à travers un masque. Toutes les fenêtres sont ouvertes et pourtant, alors même qu'on avance, pas le moindre courant d'air ne circule. Cette voiture est une boîte en métal hermétique. Je n'arrive pas à prendre suffisamment d'oxygène dans mes poumons. J'ai la nausée. Je n'arrête pas de me rejouer la scène de ce matin, quand je suis arrivée au café. Je ne peux pas me débarrasser de l'impression d'être toujours là-bas, face à leur visage. C'est la faute de Jess. Ce matin, j'étais tellement obsédée par Jess et Jason, par ce qu'elle avait fait et ce qu'il allait vivre, la confrontation qui surviendrait quand il découvrirait la vérité et que son monde, comme le mien, serait détruit. Je suis sortie du train à Londres et j'ai commencé à déambuler, confuse, sans me concentrer sur l'endroit où me menaient mes pas. Sans réfléchir, je suis entrée dans le café où vont tous les employés de Huntingdon Whiteley. J'avais déjà passé la porte quand je les ai vus, et à ce moment-là, il était trop tard pour faire demi-tour. Ils m'ont dévisagée, les yeux très légèrement écarquillés, avant de se rappeler de sourire poliment. Martin Miles, Sacha et Harriet, triumvirat de l'embarras, m'ont fait signe de m'approcher. Rachel ! S'est exclamé Martin en s'avançant pour m'étreindre. Je ne m'y attendais pas et mes bras se sont retrouvés coincés bêtement entre nous deux, contre son corps. Sacha et Harriet ont souri et semblé hésiter avant de me faire la bise de loin, sans même m'effleurer. Qu'est-ce que tu fais là ? A repris Martin. Je suis restée muette un long moment, la tête baissée. J'ai senti le rouge qui me montait aux joues. Puis j'ai compris que je ne faisais qu'empirer les choses. Alors j'ai eu un petit rire qui sonnait faux et j'ai dit « Entretien, un entretien. » « Oh !» a fait Martin sans parvenir à cacher sa surprise, tandis que Sacha et Harriet acquiesçaient en souriant. « Avec qui ?» Je n'ai pas réussi à retrouver le nom d'une boîte de relations publiques, pas une seule, ni d'une société immobilière. Sans compter qu'il m'aurait fallu en trouver une vaguement susceptible d'embaucher en ce moment. Je suis restée plantée là, à me frotter la lèvre inférieure du bout de l'index en secouant la tête et, au final, c'est Martin qui a repris. « C'est top secret, c'est ça. Il y a des boîtes comme ça, un peu bizarres, hein ? Elles ne veulent pas que tu parles de quoi que ce soit tant que rien n'est signé et que ce n'est pas encore officiel. » C'était des conneries et il le savait. Il n'a dit ça que pour me sauver la mise et personne n'y a cru, mais tout le monde a joué le jeu en hochant la tête. Harriet et Sacha jetaient des coups d'œil par-dessus mon épaule en direction de la porte. Elles avaient honte pour moi et cherchaient une opportunité de s'échapper. « Je ferais bien d'aller commander mon café, » ai-je dit. « Je ne voudrais pas être en retard. » Martin a posé la main sur mon avant-bras et a conclu « Ça me fait vraiment plaisir de te voir, Rachel. » Sa pitié était presque palpable. Avant ces deux dernières années, je n'avais jamais compris comme cela pouvait être humiliant de voir quelqu'un avoir pitié de soi. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à la bibliothèque de Holborn dans Thibault's Road. Mais après cette scène mortifiante, c'était trop dur pour moi. Alors je suis allée à Regent's Park, un des plus beaux parcs de Londres. Je l'ai traversé en entier jusqu'à arriver près du zoo. Je me suis assise à l'ombre d'un figuier sycomore. J'ai songé à ces heures libres devant moi, je me suis rejoué la conversation qui avait eu lieu dans le café et j'ai revu l'expression sur le visage de Martin quand il m'avait dit au revoir. Je devais être là depuis moins d'une demi-heure quand mon portable a sonné. C'était encore Tom qui m'appelait depuis la maison. J'ai essayé de l'imaginer en train de travailler sur son ordinateur dans notre cuisine ensoleillée, mais sa nouvelle vie ne cessait d'empiéter sur cette image et de la gâcher. Elle était sûrement non loin de là, à l'arrière-plan, à préparer du thé ou à nourrir la petite fille, son ombre sur Tom. Je n'ai pas répondu et l'appel a été redirigé sur la messagerie. J'ai rangé le téléphone dans mon sac et je me suis efforcée de l'ignorer. Je ne pouvais en supporter plus, pas aujourd'hui. Cette journée était déjà assez cauchemardesque comme ça, et il était à peine 10h30. J'ai tenu environ 3 minutes avant de reprendre le téléphone pour composer le numéro de ma boîte vocale. Je me suis préparée à l'épreuve du son de sa voix, cette voix qui ne me parlait auparavant qu'avec humour et légèreté et qui désormais ne m'adressait que réprimande, consolation ou pitié. Mais ce n'était pas lui.
« Rachel, c'est Anna. »
J'ai raccroché. Je n'arrivais plus à respirer, ni à empêcher mon cerveau de s'emballer ou ma peau de me démanger. Alors je me suis levée et je suis allée à l'épicerie, au coin de Titchfield Street, pour m'acheter 4 canettes de gin tonic avant de revenir dans le parc. J'ai ouvert la première canette et je l'ai bu aussi vite que possible. Puis j'ai ouvert la deuxième. J'ai tourné le dos au chemin pour ne plus voir les joggeurs, les mères avec leurs poussettes et les touristes. Et comme je ne les voyais pas, alors je pouvais prétendre qu'ils ne me voyaient pas non plus, comme une enfant. J'ai rappelé ma messagerie.
« Rachel, c'est Anna. »
Une longue pause, puis elle a repris.
« Il faut que je te parle de ces coups de téléphone. »
Une nouvelle pause. Elle faisait autre chose, plein de choses à la fois, comme les épouses et les mères très occupées à ranger ou à mettre le linge dans la machine.
« Écoute, je sais que c'est difficile pour toi, »
a-t-elle dit, comme si elle n'avait rien à voir avec mon malheur.
« Mais tu ne peux pas nous appeler tout le temps la nuit comme ça. »
Elle parlait sèchement, elle était agacée.
« C'est déjà pénible que tu nous réveilles, nous. Mais tu réveilles aussi Evie, et ça, je ne peux pas l'accepter. On a beaucoup de mal à lui faire faire ses nuits en ce moment. »
On a beaucoup de mal à lui faire faire ses nuits. On. Nous. Notre petite famille. Avec nos problèmes et notre routine. Quelle connasse. Si c'était un oiseau, ce serait un coucou. Elle est venue pondre ses œufs dans mon nid. Elle m'a tout pris. Elle a tout pris et maintenant elle m'appelle pour me dire que ma détresse la dérange. J'ai fini la deuxième canette et entamé la troisième. L'euphorie qui m'a étreinte quand l'alcool a pénétré mon sang n'a duré que quelques minutes, puis j'ai été prise de nausée. J'allais trop vite, même pour moi. Il fallait que je ralentisse. Si je ne ralentissais pas, il allait m'arriver des bricoles. Je risquais de faire quelque chose que je regretterais. De la rappeler. De lui dire que je me foutais d'elle et de sa famille, et que je m'en contrefoutais si sa gamine n'avait pas une seule bonne nuit de sommeil de toute sa vie. De lui dire que la phrase qu'il lui avait écrite « ne compte plus me trouver sain d'esprit », moi aussi, j'y avais eu droit. Quand on avait commencé à se fréquenter, il me l'avait écrite dans une lettre où il me déclarait sa flamme éternelle. Et ce n'était même pas de lui. Il l'avait volée à Henry Miller. Tout ce qu'elle a, c'est du réchauffé. Je voudrais savoir ce que ça lui fait. J'avais envie de la rappeler pour lui demander Qu'est-ce que ça te fait, Anna, de vivre dans ma maison, entourée des meubles que j'ai choisis, de dormir dans le lit que j'ai partagé avant avec lui, de nourrir ton enfant sur la table même où il m'a fait l'amour ? Je n'en reviens toujours pas qu'ils aient choisi de rester là, dans cette maison. Ma maison. Je n'ai pas réussi à y croire quand il me l'a annoncé. J'adorais cette maison. C'était moi qui avais insisté pour l'acheter malgré son emplacement. Ça me plaisait d'être près de la voie ferrée, de voir passer les trains. J'aimais bien leur bruit. Ce n'était pas le cri perçant d'un grande vitesse, mais le brinque-ballement désuet d'un train de marchandises. Tom m'avait prévenu. « Ça ne restera pas comme ça pour toujours. Ils finiront par moderniser la ligne et tu n'auras plus que les hurlements des trains express. » Mais j'ai toujours refusé de croire que ça arriverait un jour. Je serais restée là. Je lui aurais repris sa part si j'avais eu l'argent. Mais je n'avais pas assez et on n'a pas réussi à trouver un acheteur à un prix correct au moment du divorce. Alors, à la place, il m'a dit que lui rachèterait ma part et qu'il resterait là jusqu'à ce qu'il en obtienne un bon prix. Mais il n'a jamais trouvé d'acheteur. Il l'a installée là. Et elle est tombée amoureuse de la maison, elle aussi, comme moi. Alors ils ont décidé d'y rester. Elle doit avoir sacrément confiance en elle, en eux, pour que ça ne la dérange pas d'aller et venir dans les pas d'une autre. De toute évidence, elle ne me considère pas comme une menace. Ça me fait penser à Ted Hughes, l'homme qui a été marié à la poétesse Sylvia Plath. Après le suicide de son ex-femme, il a installé sa maîtresse, Asia Weevil, dans la maison qu'il avait partagée avec Platt. Elle portait les vêtements de Sylvia, elle se brossait les cheveux avec sa brosse. Ce matin, j'ai eu envie de téléphoner à Anna pour lui rappeler qu'Asia aussi a fini la tête dans le four, comme Sylvia. J'ai dû m'endormir, bercée par le gin et la chaleur du soleil. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai immédiatement tâtonné à côté de moi pour chercher mon sac. Il était toujours là. J'avais la peau qui picotait. Je grouillais de fourmis sur mes cheveux, mon cou, ma poitrine, et j'ai bondi sur mes pieds en me griffant pour les enlever. À une vingtaine de mètres de là, deux adolescents qui se renvoyaient un ballon de football se sont arrêtés pour me regarder, pliés en deux de rire. Le train s'arrête. Nous sommes presque au niveau de la maison de Jess et Jason. Mais je ne peux rien voir. Il y a le wagon et la voie ferrée entre nous. Et trop de gens qui me bouchent la vue. Je me demande s'ils sont là, s'il sait, s'il est parti, ou s'il vit encore une vie dont il n'a pas encore découvert qu'elle n'est qu'un mensonge.